VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 18 juillet 2016. À la une ce soir.
La convention du Parti républicain s'ouvre aujourd'hui à Cleveland, dans l'Ohio. Dans quatre jours, Donald Trump sera consacré candidat à la présidentielle.
Nouvelle fusillade aux États-Unis. Trois policiers ont été tués hier à Baton Rouge, en Louisiane. Le théâtre de tensions raciales depuis le meurtre d'un marchand ambulant noir abattu par la police.
Le sommet de l'Union africaine se termine à Kigali. Le vote pour la présidence de la Commission est reporté à janvier 2017.
D'abord le journal.
Fin à Kigali du sommet de l'Union africaine. Le vote pour la présidence de la Commission est reporté à l'année prochaine, nous dit notre correspondant sur place, Maurice Magorané.
La 27e sommet de l'Union africaine se termine ce lundi à Kigali au Rwanda. Les chefs d'État ou de gouvernement des 54 pays du continent sont confrontés à des dossiers brûlants. Concernant le Soudan du Sud, le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine souhaite le déploiement d'une force régionale de protection et l'ouverture d'une enquête sur les récentes violences à Djouba. Il a été annoncé aussi la création d'une taxe pour financer l'Union africaine. Pour la succession de Dramani Zuma, après un vote, aucun candidat n'a pu se faire élire. Selon Dr. De Paul Ikunga, le commissaire de l'Union africaine en charge des ressources humaines, de la science et de la technologie.
Les élections ont lieu. Malheureusement, aucun candidat n'a réuni les deux tiers. Les élections sont annulées, sont donc reportées au prochain sommet.
Autre fait marquant, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé dimanche que le moment est arrivé pour son pays de retrouver sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Maurice Magorané, VOA Afrique, Kigali.
La coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du 14 juin ont signé dimanche à Niamey au Niger un document d'entente dénommé Déclaration de Niamey pour le retour de la sérénité à Kidal et dans le nord du Mali en général. C'est le premier ministre nigérien Brigitte Raffini qui a eu l'initiative de cette rencontre. Résumé du document avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Sur médiation de Brigitte Raffini, Premier ministre du Niger, les deux parties ont convenu dimanche, en attendant la mise en œuvre des dispositions de l'accord d'Alger, de prendre des dispositions urgentes pour faire baisser la tension qui prévaut à Kidal. Elles se sont également entendues pour une cogestion sur le plan sécuritaire, notamment au niveau des points de contrôle ou checkpoints. Pour ce qui est de la gestion locale, une commission régionale de coordination des activités socio-économiques composée de 8 membres à raison de 4 par entité, à savoir CMA et plateforme, est créée. Comme la présidence de celle-ci, les comités sectoriels qui la composent au nombre de 6 seront aussi dirigés de façon collégiale par les deux entités. Il a par ailleurs été recommandé la mise en route immédiate d'une mission de haut niveau CMA plateforme sur Kidal pour la mise en œuvre de ces arrangements. Le médiateur a félicité les acteurs pour cette victoire sur eux-mêmes et déclaré qu'avec cet accord, les conditions sont ainsi réunies pour que le calme revienne à Kidal et dans les autres régions du pays. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Gabon, l'opposition et la société civile exigent la libération immédiate d'une vingtaine de militants et syndicalistes arrêtés depuis 10 jours. L'appel des syndicats à une grève générale illimitée a toutefois été très peu suivi à la mi-journée dans les hôpitaux et les administrations publiques de la capitale qui fonctionnaient normalement aujourd'hui. Il est également demandé à la population de se mobiliser avant la présidentielle du 27 août.
Présidentielle à Saint-Thomé et Principe, Evaristo Carvalho a été élu hier dès le premier tour, candidat soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada. Il a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa.
Brutalité policière au Kenya. 4 policiers ont été inculpés à Nairobi pour les meurtres d'un avocat, de son client et de leur chauffeur. Cet assassinat précédé de torture avait suscité une vive émotion dans le pays et conduit le barreau kényan à décréter une grève des prétoires d'une semaine.
Ouverture aujourd'hui de la 21e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud. La maladie reste la première cause de mortalité des adolescents en Afrique. Chaque mois, 100 000 personnes meurent du sida et 160 000 sont contaminées, selon l'organisation AIDE qui dénonce des inégalités sociales inacceptables entre les pays riches et les pays pauvres.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trois policiers ont été abattus hier à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, marquée par de fortes tensions raciales. Une nouvelle fusillade, 10 jours après l'assassinat de 5 policiers à Dallas. On fait le point avec Nani Talani.
Selon le chef de la police de l'État de Louisiane, le colonel Mac Edmondson, Gavin Long avait tendu une embuscade aux agents de la force de l'ordre. Il a vite ouvert le feu lorsque des policiers alertés de la présence d'un homme armé sont arrivés sur place. 3 d'entre eux ont été tués, 3 autres blessés, dont un grièvement. Le tireur a été abattu. Pour le colonel Edmondson, qu'il les ait attirés sur place ou qu'il ait prémédité son acte en cherchant spécifiquement des policiers, l'objectif c'était n'importe quel policier dans la zone. Quant au président Obama, rien ne peut justifier les violences contre la police. Gavin Long, 29 ans, est un noir originaire du Missouri. Ancien marine, il a servi dans les forces américaines en Irak. Il cherchait à tuer des policiers, comme le tireur de Dallas qui a abattu 5 policiers il y a une dizaine de jours. Baton Rouge a été marqué par de nombreuses manifestations suite à la mort d'un vendeur ambulant noir abattu par un policier.
La France a observé une minute de silence à la mémoire des 84 victimes de l'attentat du 14 juillet. Sur la promenade des Anglais à Nice, Mohamed Laouejboulel a semé la mort en écrasant avec son camion une foule rassemblée pour le feu d'artifice de la fête nationale. Les habitants de la ville n'ont pas caché aujourd'hui leur colère pendant la visite à Nice du Premier ministre Manuel Valls.
Ah, et puis c'est un peu la faute du gouvernement. Il n'y avait pas assez de sécurité, hein, absolument.
Hein. Personne n'est content. Hein.
Personne n'est content. Le peuple niçois n'est pas content du tout.
Hein. Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui, en tant que citoyen français, on se sent vraiment laissé seul. Quoi. Seul. Le gouvernement, il nous promesse des choses. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Et, on ne s'en sortira pas. Quoi. Je pense que leur solution, ce n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'on se sente en sécurité? Et pourtant, on attend quoi? Tous les 6 mois, on va pleurer nos morts. Que ce soit aujourd'hui à Nice, c'était à Paris il n'y a pas très longtemps, et ça continuera comme ça. Il faut que ce soit plus radical.
Des Niçois en colère contre le gouvernement français.
Coup d'État manqué en Turquie. Le chef de la diplomatie américaine et son homologue de l'Union européenne appellent le président Recep Tayyip Erdogan à préserver l'état de droit et éviter tout excès. Le secrétaire d'État John Kerry a exprimé son soutien aux poursuites judiciaires contre les auteurs du coup, tout en avertissant le gouvernement turc de ne pas aller trop loin. De son côté, Federica Mogherini, qui dirige la politique étrangère de l'Union européenne, a déclaré à Bruxelles qu'il est dans l'intérêt d'Ankara de protéger l'état de droit. L'agence officielle Anadolu fait état de près de 9000 officiers suspendus et 6000 membres de l'armée et de l'appareil judiciaire arrêtés depuis vendredi, faisant craindre une atteinte à l'ordre constitutionnel.
8 militaires turcs qui ont fui en Grèce par hélicoptère samedi après le coup d'État manqué seront jugés jeudi en comparution immédiate pour entrée illégale et violation de l'espace aérien grec. Les prévenus, 2 commandants, 4 capitaines et 2 sergents, ont nié toute implication dans le putsch et se disent inquiets pour leur vie et celle de leur famille en Turquie. Ankara compte exiger leur extradition selon un avocat turc venu d'Istanbul.
L'ONU a dénoncé jeudi les exécutions sommaires des civils et les bombardements aveugles de quartiers résidentiels commis à la fois par les séparatistes et par les forces de Kiev dans l'est de l'Ukraine. Un rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme, rappelle que le meurtre de civils, de personnel médical ou religieux ou de toute personne prenant part à une part active aux hostilités est reconnu comme un crime de guerre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti républicain.
Course à la Maison-Blanche, ici aux États-Unis. La convention du Parti républicain vient juste de démarrer. On fait le point avec notre envoyé spécial Nicolas Pineau, qui est sur place à Cleveland.
Et oui, je me trouve actuellement au Quicken Loans Arena de Cleveland, où la convention républicaine a officiellement démarré ce lundi. Vous le savez, au cours de ces 4 jours de convention, le candidat républicain Donald Trump deviendra officiellement le candidat du Parti républicain pour la présidentielle de novembre prochain. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour. Le premier thème a été décidé par Donald Trump lui-même, « Make America Safe Again », c'est-à-dire « Rendre l'Amérique à nouveau sûre », c'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de sécurité. Vous savez que le candidat républicain accuse notamment Hillary Clinton et l'administration Obama de ne pas améliorer la sécurité des États-Unis. Et donc ce soir, on aura notamment des survivants de l'attaque du consulat américain de Benghazi, où vous le savez, un ambassadeur américain a été décédé. On va également entendre ce soir Melania Trump, la femme du candidat républicain. C'est un passage obligé. Généralement, dans toutes les conventions, on entend la femme des candidats. Pourquoi ? Pour donner celle du candidat politique. Il faut dire que Donald Trump a beaucoup montré son côté offensif, certains diront agressif, et donc Melania Trump va tenter d'adoucir un peu cette image auprès des électeurs. Voilà pour le programme de ce lundi soir ici à Cleveland.
Il y a eu aussi des manifestations au sein de la convention.
Oui, vous avez raison, les manifestations, elles ont commencé depuis dimanche, elles se poursuivent ce lundi ici à Cleveland. Il y aura des pro-Trump et des anti-Trump qui vont continuer à manifester, mais ils ne vont pas manifester sur le lieu de la convention, ils vont manifester en dehors du périmètre sécuritaire. Et la grande interrogation pour les organisateurs de cette convention, ce sont les armes, puisque vous savez qu'ici dans l'État de l'Ohio, on a le droit de porter des armes dans la rue, et donc beaucoup craignent des violences. On vous en parlera demain matin également sur VOA Afrique. Nicolas Pineau depuis Cleveland pour VOA Afrique.
Nicolas n'est pas notre seul envoyé spécial à Cleveland dans l'Ohio, avec lui Idrissa Seloudia, qui nous parle maintenant de l'histoire et du sens des conventions.
La convention, c'est le processus démocratique en action. Il explique qu'il a été élu directement par le parti de son État pour venir appuyer ici son candidat et lutter, je cite, « pour notre homme pendant l'automne » et, s'est-il repris, dans certains cas, une femme. Historiquement, les délégués n'étaient pas si puissants. Il a fallu l'établissement des primaires au 19e siècle et surtout au début du 20e siècle pour commencer à leur donner, à ces délégués, le pouvoir effectif de sélection des candidats de leur parti respectif à la présidence. À noter que la Constitution américaine ne dicte pas aux partis combien ils doivent être et encore moins comment ils doivent mener leurs affaires internes. Autrefois, c'était la machine du parti ou encore les barons du parti qui choisissaient les candidats à la présidence et à la vice-présidence et faisaient entériner leur choix par les délégués. L'expression que l'on utilisait en anglais pour ce processus était le « smoke-filled room », littéralement « la salle remplie de fumée ». Et je ne suis pas sûr qu'on parlait ici des cigares que l'on fumait, plutôt l'opacité du processus. Les choses ont pris un tournant décisif en 1972, surtout après l'expérience des démocrates en 1968 à Chicago. C'était en pleine guerre du Vietnam. Le président Lyndon Johnson, qui faisait face à une sérieuse opposition au sein de son parti, a décidé de ne pas se représenter. Son vice-président, Hubert Humphrey, qui n'avait participé à aucune primaire, avait été quand même investi pour briguer la présidence au nom du Parti démocrate. La démocratisation consécutive du processus a permis, en 1976, à un parfait inconnu, un certain planteur de cacahuètes de Géorgie et ancien gouverneur de cet État, de s'imposer. On peut dire la même chose avec Barack Obama en 2008. On peut dire aussi que l'homme que les républicains vont introniser dans cette convention a bénéficié largement de la démocratisation du processus de sélection des candidats lors des primaires. D'aucuns pensaient lui barrer la route en faisant changer d'avis un nombre suffisant de délégués ou en faisant appel à leur conscience et les amener à ne pas se sentir liés par les résultats de leurs primaires respectives. Ça n'aura pas lieu à cette convention. Idrissa Seloudia à Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Megan Guériac et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour.
11 otages dont le maire de la ville de Lagdo, au nord du Cameroun, ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
C'est une foule parmi laquelle deux ministres et les militants du RDPC parti au pouvoir qui applaudit l'arrivée de Maman Abakaï, maire de Lagdo, et 10 autres anciens otages à Yaoundé. Selon Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence du Cameroun chargé de la défense, leur libération a été supervisée par le président Paul Biya.
Tout ceci s'est fait sous la houlette et sous la coordination personnelle du chef de l'État, de manière efficace. C'est un dénouement heureux dont nous nous réjouissons tous.
Mais le maire de Lagdo, Maman Abakaï, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures, vous n'avez que le couscous qui n'est que la farine de manioc. On n'a pas eu de variation pendant tout ce temps. Perdre l'espoir, à un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Nous avons perdu l'espoir et la dernière tentative, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
A été levé par un groupe de soldats. Ils sont du front de FDPC, donc Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubacar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération, mais les anciens otages expliquent que les groupes armés réclamaient de l'argent avant de les libérer. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Deux agences américaines, la NASA et l'USAID, ont récemment lancé au Niger un programme visant à promouvoir l'utilisation des données aérospatiales pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique. Le programme est dénommé « Servir l'Afrique de l'Ouest ». Il va durer 20 ans. Précision dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le programme aidera les gouvernements et d'autres décideurs à bénéficier des images satellitaires, des données et des cartes publiquement disponibles pour mieux prendre des décisions dans quatre domaines que sont la sécurité alimentaire et l'agriculture, l'eau et les catastrophes, la météo et le climat et enfin l'utilisation des sols et la gestion des forêts et zones côtières. Pour le lancement de la phase pilote qui va durer 5 années, l'administrateur principal de la NASA a fait le déplacement de Niamey, Charles Bolden.
Servir West Africa is part of a growing movement around the world.
C'est le directeur régional Afrique de l'Ouest de l'USAID, Alex Deprez, qui a expliqué le constat de base fait par les deux agences pour initier un tel programme.
Si nous pouvons débloquer les secrets de la planète Jupiter, à coup sûr, nous pouvons débloquer les secrets du Sahel. En Afrique de l'Ouest, les deux tiers de la population dépendent de l'agriculture pour leur survie. Des études récentes de modélisation du climat indique que l'Afrique de l'Ouest est extrêmement vulnérable aux effets de changement climatique et à la variabilité des précipitations. Ces projections soulignent la nécessité d'avoir accès à des informations récentes, fiables et à jour pour la prise de décision.
Servir Afrique de l'Ouest est mis en œuvre par le Centre régional d'agro-hydrométéorologie Agrimet, une institution spécialisée du CILS. Il sera dirigé par le Nigérien Alfari Issoufou, chef du département information et recherche du Centre Agrimet de Niamey.
On a eu des expériences et l'impact est très 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 positif. Avant, au cours des inondations, il y a beaucoup de vies, il y a les pertes en vies humaines. Aujourd'hui, deux jours, trois jours avant l'inondation, on donne l'alerte et les gens évacuent les régions qui sont inondées. Et là, on sauve assez de vies humaines.
Les autorités du SILS, représentées par le ministre malien de l'Agriculture et celles du Niger par son premier ministre Brigitte Raffini, ont salué la venue de ce programme qui fait de l'Afrique de l'Ouest à travers le Niger le quatrième hub du réseau mondial servir de la NASA et de l'USAID. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Deux agences américaines, la NASA et l'USAID, ont récemment lancé au Niger un programme visant à promouvoir l'utilisation des données aérospatiales pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique. Donc c'est un sujet dont on va parler, dont on a déjà parlé. Donc cette semaine, le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida se joint à des milliers de partenaires pour la 21e conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud. Nathalie Barge a joint à Kinshasa le docteur Marcel Yutebiang du PEPFAR lorsqu'il était en mission d'évaluation du traitement antirétroviral sur les femmes enceintes et allaitantes avant de se rendre à Durban.
Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de déperdition le long des différentes étapes depuis son enregistrement aux consultations prénatales jusqu'à la fin de l'exposition du risque de transmission. Et nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade. Précédemment avec des financements de PEPFAR à travers l'Institut national de la santé des États-Unis, nous avons évalué ici l'utilisation des transferts monétaires conditionnels, mais on était encore à 80% de femmes retenues le long de la chaîne des soins, ce qui indiquait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment les problèmes de la qualité des soins dans les structures.
Est-ce que ces soins sont gratuits?
Dans les pays appuyés par PEPFAR, qui est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH, les soins sont généralement gratuits. Dans les 21 pays en Afrique subsaharienne dits prioritaires, par l'ONU-SIDA, puisque ces pays regorgent plus de 80% des femmes enceintes VIH positives. Généralement, ces pays sont appuyés par PEPFAR et les soins sont gratuits.
Dans l'étude justement de PEPFAR sur ce sujet, il est dit « Nous avons les outils en ce moment pour réduire l'incidence des nouvelles infections, mais nous avons besoin d'appliquer ces outils de manière plus efficace. » Que voulez-vous dire par là ?
Cela veut dire que nous avons des traitements qui permettent de réduire la transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de ces différents pays, les 21 pays que je viens de mentionner au sud du Sahara, on est loin du compte.
Quels sont les obstacles justement à ce bon fonctionnement?
Le premier obstacle, c'est que quand les femmes viennent en consultation prénatale, là où elles sont diagnostiquées, parfois elles ne reviennent pas à accoucher dans la même structure. Mmh. Ou elle accouche dans la même structure et après quitte la structure pour aller ailleurs. Ce qui veut dire donc que quand elles ne reviennent pas, elles ne sont plus sous traitement. Et si elles ne sont plus sous traitement, le risque de transmettre le VIH chez leur enfant devient élevé.
Voilà, c'était Marcel Yutebiang, professeur de santé publique à l'Université d'État de l'Ohio, chercheur pour le PEPFAR. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le nouvel aéroport international sénégalais Blaise Diagne, encore en construction à Dias, sera opérationnel fin 2017, après 10 ans de travaux, selon le directeur général Abdoulaye Modj, cité par Financial Afrique. Le consortium turc Soumalimak a déployé sur le site une centaine d'ingénieurs qui encadrent près de 400 travailleurs sénégalais. La Banque centrale de la RDC a reconnu que la monnaie congolaise était dans une zone de turbulence, ayant occasionné des dépréciations de 3 à 4,4% entre mai et juin, selon un communiqué. Elle a déjà injecté 168 millions de dollars au cours du premier semestre 2016. En début d'année, 1 dollar valait 930 francs congolais contre 1000 francs aujourd'hui. La Caisse de dépôt et de développement de Mauritanie a décidé de poursuivre tous ses débiteurs de la filière agricole. La gendarmerie de Rosso a commencé à auditionner certains mauvais payeurs, selon la presse locale. Récemment, le président Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré que la CDD ne sera pas sacrifiée sur l'autel de la gabégie à l'image de ses institutions devancières. L'Union nationale des coopératives agricoles et l'Union des banques de développement, deux organismes tombés en faillite à la fin des années 80.
Place à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
En football, on a joué les Coupes africaines des clubs ce week-end.
Oui, en Ligue des Champions, c'était la troisième journée dans le groupe A et notamment cette mauvaise opération pour la SEC d'Abidjan, battue 3-1 par les Zambiens de Zesco United, toujours dans le groupe A, match nul 0-0 entre Al Ahly d'Égypte et le WAC du Maroc dans le groupe B, défaite du Zamalek à domicile au Caire contre les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, 2-1.
On a également disputé la troisième journée de la phase de poule en Coupe de la Confédération.
Et bien dans le groupe A, match nul, 1-1 entre les Young Africans d'Afrique du Sud et les Ghanéens de Medeama, 1-1. Toujours dans le groupe A, ce nul du tout-puissant Mazembe à Béjaïa, 0-0 face à Mouloudia Olympique Béjaïa. Les Corbeaux qui conservent la tête de ce groupe, réaction des deux entraîneurs à venir dans Sporama, c'est tout à l'heure, hein, à 19h avec Nasser Sandiak, le coach donc du Béjaïa, et Hubert Velud des Corbeaux.
Oui, 19h, temps universel. Changeant de discipline, Bagassi Koura, cyclisme, 16e étape du Tour de France.
Eh bien, le vainqueur du jour, c'est le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, qui s'est adjugé in extremis, hein, cette 16e étape à Berne, son 3e succès depuis le départ. Sagan, qui a lancé son vélo sur la ligne dans un geste de sprinter, a remonté le Norvégien Alexander Kristoff, qui, Chérubin, il croyait bien avoir gagné, mais il a fallu donc courir aux caméras pour savoir que c'est bien Peter Sagan qui a gagné l'étape.
Il avait apparemment célébré trop vite Bagassi Koura.
Voilà.
En athlétisme, des sanctions contre les responsables russes mises en cause dans le rapport McLaren sur le dopage.
Eh bien, c'est ce qu'annonce le Kremlin, qui souligne que les responsables coupables de dopage dans le sport russe seront suspendus le temps de l'enquête, conformément à ce qu'a exigé l'Agence mondiale antidopage. Selon les conclusions du rapport McLaren publié ce lundi, la Russie a triché sur toute la ligne depuis des années, pas seulement en athlétisme et pas seulement lors des Jeux de Sochi 2014.
Alors ils ont dit que c'était organisé au niveau de l'État, c'était très grave, mais voilà. Peut-on suspendre tout un pays des Jeux de Rio? C'est la grande question.
Les voix s'élèvent depuis ce lundi pour que la Russie soit exclue de Rio.
Les sports avec Bagassi Koura, merci.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31. 40, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, Mr. Remkes à la console. Présentation, Morgan Guerrier et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons un grand merci à nos 1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. N'oubliez pas de visiter voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.